Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière simple et compréhensible toute l'actu tech, internet et gadgets qui est si importante à comprendre pour comprendre le monde. En fait, c'est ce que nous vous aidons à faire ici, nous vous aidons à comprendre le monde en une heure par semaine. C'est quand même pas mal. Je suis Patrick Béja et je suis accompagné aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau Gaël Girardot. Comment ça va Gaël ?
Bonjour Patrick, ben écoute, très bien, cette rentrée qui commence doucement, c'est parfait. Et toi ?
Ben écoute, ça va, je suis d'autant plus heureux de te recevoir dans l'émission que tu fais désormais partie de l'équipe régulière, donc on te retrouvera régulièrement dans l'émission. C'était déjà un petit peu le cas avant, tu venais de temps en temps, mais là ça sera un petit peu plus souvent. Et je suis très heureux que tu contribues avec tes connaissances et ton expertise à l'émission, je suis sûr que les auditeurs seront heureux aussi.
Bien, écoute, je te remercie de ta confiance et j'en suis ravie aussi.
Ouais, on va parler de sujets assez épineux et puis des petites choses un petit peu plus tech gadget aussi. On va parler de Facebook, hein. Décidément, ils sont jamais très loin quand on parle de tech. Puis on va aussi parler de YouTube qui fait des trucs pour les enfants. C'est super ça, forcément, le YouTube qui fait des trucs pour les enfants. Des nouveaux iPhones, de Google qui change un petit peu la nomenclature d'Android, de Disney+, de plein de choses. Mais commençons donc par Facebook. Comme je le disais, ils sont jamais très loin avec ce problème insoluble de comment faire de la soupe immense que représentent les interactions sur les réseaux sociaux quelque chose de compréhensible et surtout qui ne va pas aller... Qui va... Oula, qu'est-ce qui se passe ? J'entends des bruits du côté de Gaël. T'es toujours là ?
Je ne sais pas. Oui, ah, oui, je suis toujours là.
D'accord, ok, très bien. Et donc, cette soupe d'informations dans les réseaux sociaux qui est difficile à classer. Avant de faire ça, je voudrais tout de même remercier encore une fois les auditeurs qui soutiennent l'émission, bien sûr, par patreon.com/rdvtech. Aujourd'hui, je remercie spécifiquement Florent Martial, Gwil, Thomas Baron, Doc W, Krumi, Akutama et Vincent G. Ce sont quelques-uns des nombreux auditeurs qui choisissent de soutenir financièrement l'émission. C'est grâce à vous que l'émission peut exister. Et si jamais vous appréciez l'émission, bah je vous remercie de considérer, peut-être si vous le pouvez, si vous en avez les moyens, donner quelques sous comme le font ces merveilleux contributeurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font chez Facebook aujourd'hui ? Quelle est leur nouvelle solution à tous nos problèmes de fake news ? Eh bien, il semblerait qu'ils soient en train d'engager une équipe de journalistes qui n'est pas immense, on ne sait pas exactement combien, mais qui créerait en fait une section nouvelle d'informations qui serait dans une nouvelle table. Alors c'est à l'état de test en ce moment, de test interne, et qui pourrait être commencé à tester pour le public d'ici la fin de l'année. Et donc l'idée serait que bien sûr c'est un changement par rapport à ce qui se passe sur tous les réseaux sociaux, et même ça va plus loin, même jusqu'à Google et les sociétés qui essayent d'organiser l'information du monde entier parce qu'ils ont généralement une approche 100% algorithmique. Donc, ils font un algorithme qui va faire ressortir les informations dont ils pensent qu'elles sont importantes et qu'on veut les voir. Et bien sûr, le problème, qu'on en parle souvent dans l'émission, c'est que ces algorithmes n'ont pas de moyen de savoir vraiment ce qui est intéressant. La seule chose qu'ils peuvent savoir, c'est qu'est-ce qui provoque des interactions. Et malheureusement, comme on l'a constaté depuis quelques années, ce qui provoque les interactions, le plus d'interactions, c'est généralement des informations qui sont scandaleuses, qui font du bruit, qui font réagir, qui énervent, qui frustrent, etc. Donc, bien sûr, on l'a tous constaté, ça provoque des problèmes qui sont difficiles à résoudre. Facebook serait en partie au moins en train de jeter l'éponge sur l'aspect algorithmique et peut-être engager une petite équipe de journalistes. Est-ce que ça pourrait résoudre ou au moins commencer à résoudre le problème ? Est-ce que c'est la bonne direction ? Je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse. Du coup, je donne la parole à Gaël. Je me décharge de la conclusion.
La patate chaude.
Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est la bonne solution, Gaël, ou est-ce que c'est un début de réponse ?
Pareil, j'ai pas la réponse, malheureusement. Je vais essayer d'être positif. Je vais dire, en tout cas, il y a une intention. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience mondiale sur la problématique des fake news. Facebook commence à faire quelque chose. Est-ce que c'est la solution ? En fait, ce qui me pose problème, déjà, en premier lieu, c'est que c'est un onglet qui va être à part. Donc ça veut dire que ça n'est pas dans ton newsfeed où tu partages, là où tu as l'habitude de partager tes articles, tes liens, tes photos, tes vidéos, c'est à part. Donc déjà, ça veut dire que pour faire la démarche d'aller chercher de la news qui a été catégorisée, filtrée, retravaillée par des journalistes, ça veut dire que tu as déjà conscience, tu as déjà envie d'aller vers ça. Donc ça veut dire que les personnes qui vont se diriger vers ça sont finalement peut-être déjà des gens qui ont l'habitude, en tout cas, d'avoir un esprit critique un peu plus que la moyenne, je dirais. Donc finalement, on va retrouver les mêmes personnes qui vérifient leurs sources et qui font attention aux fake news dans cet onglet-là versus tous les gens qui vont continuer à rester dans leur page Facebook habituelle.
C'est vrai que ça peut poser un problème, mais d'un autre côté, si j'essaye de voir le revers plus brillant de cette médaille, je me dis que ça peut aussi, d'une certaine manière, décrédibiliser un petit peu ce qu'on voit dans le flux classique. Et à vrai dire, il n'est pas impossible qu'on retrouve certains de ces éléments qui soient liés dans le flux classique et qui nous amènent ensuite dans l'onglet sur les news, entre guillemets, sélectionnés par les journalistes. Mais ça peut décrédibiliser un petit peu le flux en général et dire, bon, bah, ça, c'est ce qu'il y a dans le flux, on n'y croit pas trop. Ou alors, on le prend avec des pincettes. Et puis, avec, bien sûr, toujours notre esprit critique, mais ce qu'il y a dans l'onglet news, là, c'est les news sérieuses. Je me dis, ça pourrait aussi avoir cet effet, peut-être.
Effectivement, alors le problème, c'est qu'on ne sait pas encore exactement à quoi ça va ressembler. Ce qui serait intéressant, je trouve, je ne sais pas si c'est prévu ou pas, mais effectivement, si par exemple, quand tu repartages ces news-là au sein des feeds basiques, s'il y a un petit signe, un petit logo qui dit ça fait partie des, tu vois, verified ou fact-checked, ou tu vois, qui montre que ça, c'est déjà, effectivement, ça fait partie du travail des journalistes de Facebook, je trouve, effectivement, si c'est réintégré en fait au sein de ton feed actuel, c'est intéressant. Mais de toute façon, encore une fois, la démarche est positive, je ne dis pas le contraire, ça va vers quelque chose. Est-ce que c'est la solution ? Je ne sais pas si c'est suffisant pour l'instant, mais il faut bien commencer quelque part, on est d'accord. Après, est-ce que c'est aussi, je suis désolée, hein, je vais repartir dans le côté cynique des choses aussi un petit peu, mais est-ce que c'est aussi une façon de conserver les utilisateurs, de recréer un portail news et juste rester à l'intérieur de Facebook et obtenir plus de data sur ta consommation news ? C'est possible aussi, mais après, c'est aussi la façon dont Facebook a de monétiser et d'être... c'est leur business model, si tu veux. Donc, ils peuvent pas en déroger, ils peuvent pas faire autrement.
Bon, ça, c'est sûr que toutes les modifications qu'ils font à leurs produits, c'est toujours pour, entre guillemets, l'améliorer, s'assurer que les utilisateurs continuent à l'utiliser. Et là, c'est une réaction qu'ils ont, évidemment, parce que, alors pas parce que les utilisateurs arrêtent de l'utiliser, mais parce qu'ils ont un sérieux bad buzz et ça pourrait mener à quelque chose de négatif dans les volumes d'utilisation à terme. Et oui, comme tu le dis très bien, ça n'a pas que des aspects positifs. Un autre aspect négatif auquel je peux penser, c'est que ça ne ferait que répliquer cette dualité qu'on retrouve aujourd'hui sur le net et dans beaucoup de mouvements contestataires, qui est cette opposition entre les journalistes institutionnels qui nous baladent, qui sont payés, qui machin, et les vraies infos qu'on obtient par des sources un petit peu moins traditionnelles et qui là sont pas à la merci du pouvoir et des puissants et qui, bon, ce genre de théorie. Ceci dit, ces idées-là, elles existent de toute façon et elles ne vont pas disparaître. Je pense que maintenant, on a traversé le Rubicon un petit peu à ce niveau-là. Mais par contre, on peut essayer de rééquilibrer un petit peu. Moi, je pense que ça pourrait aider. Ce n'est pas une solution tout en un, ça pourrait aider. Et puis surtout, l'idée, une réflexion un petit peu plus générale sur la tech, c'est que Facebook a, je pense, tout essayé ces dernières années. Et il semble que là, ils se disent, je disais jeter l'éponge en dramatisant un petit peu, ils se disent, bah, peut-être qu'en fait, on a besoin d'humains dans la boucle et que c'est le seul moyen de vraiment, encore aujourd'hui, savoir qu'est-ce qui est crédible ou pas.
Non, et c'est positif. Ouais. Je trouve que en fait, ça revalorise, ça revient aussi à revaloriser le travail du journaliste, parce que c'est un vrai métier. Le travail du journaliste, il doit travailler justement l'organisation, hiérarchiser l'information, la déontologie, chercher ses sources, avoir un angle éditorial, etc., etc. Donc, c'est bien de montrer que finalement, on en a besoin. Et Facebook, en le faisant, en engageant une équipe de journalistes, finalement, on revient à dire ce que tu dis, c'est dire au final, on peut pas se passer de l'humain, on peut pas se passer du travail du journaliste. Donc c'est plutôt, en ça, c'est plutôt positif. Ouais. Et on va plutôt dans le bon sens. Après, j'ai lu une étude justement en lisant un petit peu quand j'ai vu cet article-là. Je sais pas si tu avais vu, il y a une étude qui a eu lieu en 2016, faite par l'INRIA notamment, alors qui a été faite sur Twitter, mais qui montrait que 59% des articles partagés l'étaient sans être même ouverts avant. Oui. Cliqués avant.
Mais c'est ça qui est terrible, c'est que le métier de journaliste est alors il y a des bons et des mauvais journalistes, bien sûr, il y a des bons et des mauvaises des bonnes et des mauvaises publications, c'est évident, mais le métier de journaliste à la base, c'est de comprendre un sujet et de le présenter et de l'expliquer. C'est à vrai dire, même si moi je me considère pas fondamentalement comme un journaliste, c'est ce qu'on fait ici dans cette émission. J'espère que si on fait bien notre boulot, ça permet aux gens de comprendre les sujets, d'en comprendre les tenants et les aboutissants, et c'est un travail. Et ce qui est en train de se passer, et ce qui est une conséquence, je pense, qui n'était pas l'intention, mais ce qui est en train de la conséquence de la techisation de l'information, c'est que, effectivement, ces gens dont c'est le travail auquel on demande en tant que société de faire ce travail, eh ben, on leur a un petit peu retiré le bébé, leur tâche, en disant bah, c'est bon, on peut tout faire par la tech. Et là, ça les réintroduit un petit peu et ça. Alors. On prend, c'est une rumeur sur une initiative qu'ils sont en train peut-être de mettre en place et de tester vers la fin de l'année. Donc, c'est pas que toute la tech s'est levée comme un seul homme pour dire le journalisme est important, nous allons réintroduire. Bon, on n'y est pas, mais c'est une petite orientation dans cette direction. Et oui, donc, on leur a enlevé le bébé et là, on est en train de se dire, bon, ok, peut-être qu'en fait, ça, c'est un vrai métier. Mais en même temps, je ne peux pas vraiment être... si on regarde la manière dont évoluent les choses, la tech permet justement de se passer de nombreux métiers. Et dans 80% des cas, ça fonctionne. Quand je parle de tech, c'est au sens large. Quand on peut parler de, je ne sais pas, le travail à l'usine, des trucs qui n'étaient pas forcément hyper sexy à faire comme métier. Mais souvent... ça marche. Et parfois, malheureusement, ça ne marche pas. Il faut corriger. Peut-être que c'est le début de cette correction. Quoi. Bon, parlons d'un autre, une autre correction. YouTube a annoncé assez discrètement quelques changements de ses policies, de ses pratiques envers les enfants et envers les vidéos spécifiquement destinées aux enfants. Il y a d'une part une question de publicité, c'est-à-dire qu'ils vont limiter ou même complètement arrêter la publicité sur les vidéos destinées aux enfants, ce qui est une grosse étape parce qu'ils sont extrêmement populaires sur YouTube, les vidéos aux enfants, ils ont des millions et des millions et des milliards de vues. Et d'autre part, alors j'ai lu et je crois que j'ai compris les mots, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris vraiment si c'était ça la situation, parce que peut-être que je te laisse expliquer, mais on s'en émeuvait avant de commencer l'émission tous les deux. Tu peux nous expliquer ce qui se passe avec le contenu violent ?
Alors, c'est assez flou aussi pour moi, parce qu'effectivement, il y a des choses pour moi qui étaient déjà faites. Donc, leurs annonces sont assez surprenantes. Il y a deux choses, effectivement. La première étant de dire, on va faire une curation, on va mieux traiter les vidéos violentes qui sont à destination, donc qui sont taguées pour enfants. Parce qu'en fait, il y a eu des problématiques qui sont en fait des vidéos qui étaient des vidéos qui ressemblaient à des dessins animés ou qui étaient des dessins animés, même avec des personnages connus type Elsa de La Reine des Neiges, ce qui fait que les parents étaient très contents de se dire « c'est bon, mon enfant est en train de regarder La Reine des Neiges, tout va bien », et en fait, Elsa était en train de faire des choses violentes ou agressives ou pas belles du tout, parce que c'était des faux dessins dessin animé, et en fait, ça n'avait pas été vu au départ par les algorithmes justement de YouTube. Donc là, ils sont censés y faire beaucoup plus attention. Donc ça, c'est par rapport aux vidéos violentes. Il y a aussi la question de la publicité. C'est là où c'est un peu plus... j'ai pas forcément compris. Pour toi, tu dis que la publicité est enlevée de YouTube. Moi, j'ai compris que c'était la publicité ciblée qui était arrêtée.
Oui, c'est la publicité. Ah, bah, tu as raison. La publicité ciblée, mais de ce que je comprends. Alors là encore, on parle de rumeurs et de sources, donc tout est à prendre avec des pincettes. Mais c'est la publicité ciblée vers les enfants sur les vidéos. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus du tout de publicité ou plus du tout de publicité ciblée pour les enfants sur ces vidéos et juste de la publicité générale?
C'était pas très clair pour moi, mais j'avais compris effectivement que c'était. Il resterait de la publicité, sauf qu'elle ne serait plus ciblée envers les enfants. Donc c'est là où c'est même presque plus problématique, parce que en tant que parent, je préfère avoir une publicité ciblée enfant qu'une publicité normale, parce que tu sais pas ce qu'il peut y avoir dans une publicité normale. Donc au final, tant qu'à faire, je préfère que ce soit une publicité pour des jouets, ce qui me rassure plus que de la publicité normale. Mais peut-être que ça n'est pas ça.
Si tes enfants viennent pour te dire, s'ils voient de la pub pour, je sais pas moi, le déodorant Axe. À la limite, ils s'en foutent, mais s'ils voient de la publicité pour le dernier jouet super populaire, ils vont venir t'emmerder avec. Donc, hey, maman, je veux le truc comme ça. Et alors que la publicité pour Axe, ils s'en foutent. Donc peut-être qu'il vaut mieux de la publicité pour Axe.
Ça dépend s'ils sont tous nus et en train de. Enfin bref.
Oui, c'est pas faux, c'est pas faux.
C'est
pas faux.
Ça peut être problématique. Après, il faut juste, pour être assez clair sur les choses, on parle de YouTube, l'application YouTube. Basique, on ne parle pas de YouTube Kids.
Qui a aussi justement... un traitement spécial à la base, de toute façon, en théorie, oui.
Exactement. Donc dans YouTube Kids, normalement, les vidéos, ils ont quand même rencontré des problèmes, mais moins de problèmes que sur YouTube normal. Mais normalement, dans YouTube Kids, les vidéos sont vraiment beaucoup plus sont sélectionnées et plus il y a plus de filtres pour rentrer sur YouTube Kids, même s'il y a eu quand même déjà des problématiques dans YouTube Kids liées au même problème que j'évoquais avant, c'est-à-dire que c'est des vidéos, des dessins animés, ça ressemble à un dessin animé, ça a l'odeur d'un dessin animé, mais ça n'en est pas un, puisque derrière, il y a des contenus qui ont été modifiés pour être des choses violentes, c'est agressives, ça, ouais. Et voire pornographiques dans certains cas. Donc,
Alors, pour revenir une seconde sur cette question de violence, parce que je ne suis pas sûr que les auditeurs ont tous compris, ce qu'ils ont changé, c'est dans leurs conditions d'utilisation, en fait, pour dire que les vidéos qui sont ciblées vers les enfants ne peuvent plus avoir de thème ou de contenu type violent ou mature. Et s'ils en ont, ils vont les retirer. Et là où ça nous a complètement surpris, on va rester poli, c'est que ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'était pas le cas. C'est-à-dire que les vidéos destinées aux enfants qui étaient taguées ou qui avaient du contenu violent ou mature étaient autorisées. Et quand on dit destinées aux enfants, on parle du style d'animation, des personnages, etc. Donc, YouTube, malgré tous les problèmes dont on a parlé, ça fait, je ne sais pas, peut-être un an qu'on parle de ces vidéos dont tu parles avec du contenu clairement destiné à des enfants, enfin, avec un style qui est destiné à des enfants, mais dont le contenu est perturbant, problématique. Et depuis un an qu'on parle de ces problèmes, visiblement, ils n'avaient pas encore modifié leurs conditions d'utilisation pour interdire les thèmes violents dans ces vidéos. Moi, ça m'a complètement flabbergasted. Ça m'a complètement étonné, quoi. Je suis vraiment... Et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait si discrètement. Mais alors ensuite, ça veut dire
qu'ils s'en sont en effet pas aperçus. Qu'à la base, c'était tout, ça a toujours été du déclaratif. Hein. Tu fais un contenu vidéo, tu dis c'est à destination... c'est family, enfin tu vois, c'est à destination des familles ou pas, et sauf que ça répondait pas aux critères. Effectivement, ils n'avaient pas émis les critères bien spécifiquement auparavant, donc ils ont dû avoir même des problèmes certainement avec des gens qui ont dit bah oui, mais c'était pas dans les conditions générales d'utilisation. Donc, j'y ai droit.
Et d'ailleurs, ils disent bah les vidéos qui sont dans ce cas, qui rentrent dans ce cadre aujourd'hui, bah vous pouvez continuer à les utiliser, mais dans X semaines, on va commencer à les nouvelles doivent être comme ça, et dans une semaine, on va commencer à retirer les anciennes aussi. Donc ça va très lentement. D'une manière générale, on en a peut-être déjà parlé avec toi, puisque je ne l'ai pas rappelé en début d'émission, mais tu es une spécialiste de ces sujets de tech et d'éducation. Est-ce que tu recommandes l'utilisation de YouTube pour les enfants, ou est-ce que tu vas plutôt vers des applications un petit peu plus dédiées, ou même des comptes enfants sur des trucs comme Netflix? Qu'est-ce que tu penses de YouTube pour les vidéos pour enfants?
Alors déjà, par principe, effectivement, c'est dire YouTube Kids en premier, parce que même s'il y a quand même des problèmes, il y a encore quelques problématiques, YouTube Kids est quand même bien plus safe que YouTube normal. Donc si je recommande quelque chose, c'est YouTube Kids. Après, reste la problématique, quoi qu'il arrive, de... À partir de quel âge je laisse mon enfant seul face à un écran? Est-ce que j'utilise la tablette ou YouTube comme une babysitter ou pas? Voilà, ça ce sont des sujets autres, mais il y a des âges où effectivement, malgré tout, tu laisses pas ton enfant. Au moins, tu es à côté. Quand tu l'utilises pas comme babysitter, on l'a tous fait, hein, et moi aussi. Je ne déroge pas à la règle. Je donne la tablette à mon fils, il regarde un dessin animé dessus. Simplement, il est pas seul dans sa chambre et j'entends ce qui se passe. Donc,
mais du coup, quand tu lui donnes la tablette, est-ce que tu YouTube Kids, soit tu dis ok, ça passe, si je garde une oreille ouverte, on n'a pas forcément besoin d'aller vers une application qui est complètement fermée où tout le contenu est sélectionné à la main, comme je pense à Netflix parce que c'est la réponse évidente, mais comme Netflix avec sa section enfant, YouTube Kids, ça va quand même pour toi?
YouTube Kids, ça va quand même, même si effectivement j'ai plutôt tendance, et moi-même je le fais plus, effectivement je vais plutôt sur du Netflix, donc c'est-à-dire où en fait toutes les vidéos ont été filtrées en amont et pas a posteriori.
Ouais, d'accord.
Donc à partir du moment où c'est en amont, un Netflix, un Disney, ça permet d'être sûr à 100% que tu es sur du contenu enfant, même si je vais quand même y ajouter une nuance parce que je m'en suis aperçue aussi dans Netflix Kids, tout n'est pas classifié, les classifications ne sont pas forcément faites pour les enfants en dessous de 3 ans, en dessous de 6 ans, en dessous de 10 ans. Donc tout ça, toutes ces classifications sont d'ailleurs en train d'être revues, notamment en France par le CSA, hein, parce qu'avant c'était moins de 10, plus de 10, hein, et après 12, 13, etc. Donc, mais ce qui est problématique, parce qu'un enfant de moins de 6 ans, finalement, ne peut pas avoir la même chose qu'un enfant de plus de 6 ans. Et encore moins un enfant de moins de 3 ans. Donc il faut reclassifier aussi ces vidéos-là, et tu peux pas montrer ça te parle peut-être pas encore, mais un Ninjago à un enfant de moins de 3 ans. Donc Ninjago, c'est les Lego qui sont des ninjas, pour ceux qui ne connaissent pas, ça reste un tout petit peu violent pour un enfant de 3 ans.
D'accord.
Donc tu peux
et ils sont pas classés.
Et ils sont pas, tu peux pas forcément le savoir. Ouais. Donc néanmoins, il faut quand même le travail de parents, vérifier quand même en amont les typologies de dessins animés qu'ils peuvent regarder. Et ça, pour ça, il y a de plus en plus de sites quand même sur Internet qui sont très sympas. Je crois que je l'avais déjà évoqué, hein, qui est une association en anglais. Je disais exactement Common Sense, où les parents, il y a l'avis des parents, l'avis des enfants, et avec les âges parce qu'effectivement tous les enfants ne sont pas pareils non plus. Il y a des enfants à qui tu vas pouvoir faire voir, et puis on a des valeurs différentes. Tu vas pouvoir faire voir, au moins tout est explicité de manière très claire et très détaillée sur pourquoi à cet âge-là et pourquoi pas à cet âge-là.
Le crowdsourcing et la tech ont quand même un aspect positif dans toute cette histoire. Common Sense peut aider. Justement, peut-être qu'on a la solution du coup, ni YouTube ni Netflix. On a des nouveaux détails sur l'application Disney Plus qui devrait arriver en novembre, d'ailleurs qui va arriver le 12 novembre dans différents pays, pas encore en France, mais qui devrait, on imagine, pas trop tarder non plus. Et là, on reparle de tech un petit peu en général, au-delà des applications pour les enfants, même si on va y revenir aussi. Il frappe très très fort, puisqu'il y aura, le prix devrait être de 6 euros environ en Europe. Ils vont faire un test aux Pays-Bas, voilà, je vais y arriver, en même temps que la sortie aux États-Unis, et le prix là-bas serait de ces 5,99 ou 6,99. Et pour ce prix, donc on est bien moins cher que Netflix, en fonction des différents plans sur Netflix, donc le plus cher étant le plan qui vous autorise à streamer en 4K, et Avec le prix de Disney Plus basique, vous pourrez streamer en 4K sur 4 écrans simultanés. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que Disney ne va pas autoriser, ne va pas être aussi laxiste, on va dire, sur le partage de mots de passe que ne l'est Netflix aujourd'hui. Ils vont être beaucoup plus stricts, ce qui est un coup bien joué, je pense, parce que pour ce prix-là, ils se disent... Bon, bah, ça va, on peut quand même... plusieurs personnes peuvent payer ce prix, alors que Netflix, beaucoup plus cher, on est plus enclin à partager le login et le mot de passe. Et pour Netflix, ça va être un petit peu dur de créer des comptes moins chers en disant, bah oui, mais du coup, maintenant, on peut moins partager les mots de passe, on va être plus strict là-dessus, parce que les gens ont pris l'habitude. Donc, je trouve que c'est bien joué de la part de Disney+. Et en plus de ça, ils auront bien sûr des sections enfants, c'est Disney, et là où c'est intéressant, c'est qu'ils vont avoir des sections avec des beaucoup de curation, évidemment, et sélectionnées par personnage. Genre, si votre enfant aime Mickey, il va pouvoir avoir sa section Mickey. Si votre enfant aime Elsa
Reine des Neiges.
Reine des Neiges, merci. Bah, il pourra avoir voilà, plusieurs dessins animés avec elle, etc., etc. Je pense que Disney+, bien sûr, il va y avoir tous les trucs Marvel qui vont faire que bah moi, je vais prendre 4 abonnements pour être sûr de pouvoir le regarder partout. Mais en plus de ça, pour les enfants, je pense que ça va être le truc des parents, comme l'a toujours été Disney. Ça va être une bonne affaire.
Et surtout que c'est aussi profil par âge, j'ai vu. Hein. Donc tu peux profiler
tout à fait,
par.
Ouais. C'est
par
ça qui m'y a fait penser quand tu le disais. Ouais.
Exactement. Donc c'est pas seulement par personnage, mais du coup tu peux dire mon enfant a moins de 3 ans, moins de 6, etc. Donc ça c'est pas mal.
Ouais. Donc, et il y a une bonne quantité de profils. Je crois qu'il y a genre 4 ou 5 entre bah, 0 et 12 ans. Donc on peut vraiment cibler. Et j'ai vu beaucoup de commentaires un petit peu, comment dire, moqueurs à l'égard de Salto, la solution de France Télévisions, M6 et TF1, je crois, qui s'unissent pour créer leur service de streaming français, francophone. Et beaucoup de commentaires disaient « Ah bah voilà, Salto, bon, eux ils ont Disney+, mais nous on a Salto, bon courage Salto ». Et je trouve ça un petit peu facile. Je pense que Salto a vraiment sa chance, même si les gens qui écoutent cette émission et qui évoluent dans ces cercles et qui regardent Netflix sont pas forcément la cible. Je pense qu'il y a une possibilité pour Salto. Le problème, c'est que, comme on le commence à l'entendre, certains gros morceaux de ces chaînes, on pense à Cache Investigation notamment, dont Numérama nous dit qu'ils ne seront pas sur Salto, et ben, les émissions qui font de grosses audiences, ne seront visiblement pas sur Salto et on ne comprend pas exactement très bien pourquoi, mais il semble qu'ils veuillent les réserver à leur propre service de replay. Et s'il y a ce genre d'attitude qui est développée, si ce n'est pas des questions de régulation et de questions problème de concurrence et de monopole, c'est une chose, mais si c'est juste parce que ces chaînes se disent « Bon, Salto, c'est bien, mais nous, nos gros morceaux, on va quand même les garder pour nous », là, évidemment que ça ne peut pas réussir. Donc, c'est un vrai danger. Il faut qu'ils y aillent à fond sur Salto et qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour que ça fonctionne et que ça attire le public. Si chacun y va à reculons, bah là, forcément, ça va se planter. Mais c'est ça qui ferait que Salto se plante ou pas. Moi, je crois qu'il y a un vrai public de contenu francophone et français. La preuve, il y a plein de gens qui regardent encore la télé. C'est peut-être pas les générations les plus jeunes, mais ça pourrait donner quelque chose et ça pourrait leur donner l'occasion de se moderniser. Le danger vient pas directement de Disney+ et Netflix, évidemment, s'il est là aussi, mais le danger vient de la sincérité avec laquelle ils s'engagent dans cette initiative, je pense.
Je pense effectivement c'est qu'ils n'ont pas compris les usages et ils continuent en fait. Salto, t'as raison, a de l'avenir s'ils le font bien, s'ils y vont à fond, et c'est pas une mauvaise chose, et il n'y a pas à être moqueur sur ce sujet là on est plutôt moqueur sur la façon dont c'est annoncé et la façon dont ils remettent encore la différence en disant oui mais on garde nos grosses marques et nos grosses productions pour la télé linéaire et non pas pour à la demande. Donc on a le sentiment qu'ils ne comprennent pas ces nouveaux usages, qu'ils ne comprennent pas leur nouveau public et qu'ils veulent rester sur leur ancien public, mais qu'il faut qu'ils s'y mettent dès maintenant puisqu'ils sont déjà en retard.
Exactement.
Ils sont encore en train de garder finalement un train de retard en faisant ça. Donc c'est un peu, c'est la façon dont ils le font plutôt que le principe, puisque le principe est bon. Même si à un moment donné, il va falloir avoir Disney+, Netflix, Salto. ouais, ça, en termes de nombre d'abonnements, et de, ça va nous revenir cher toute cette histoire.
C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, et c'est vrai que si on y ajoute en plus les abonnements aux jeux vidéo, on parlera dans un instant de Apple Arcade, il y a d'autres abonnements à des jeux vidéo, les trucs de musique, et il y a plein de gens qui disent « Ah, marre de l'abonite », je ne sais pas si on veut utiliser ce terme, l'abonite, ça suffit, mais moi je trouve que c'est une vision assez pas tronquée, mais assez biaisée de ce nouveau monde. Il y a plein de gens qui disent « Ah, mais c'est comme le câble à l'époque, on était obligé de prendre un abonnement à 80 € et il y avait plein de chaînes qu'on ne voulait pas. » Pour moi, c'est vraiment pas le cas du tout. Toutes les caractéristiques qu'on n'aimait pas de ces anciennes manières de nous livrer du contenu ont été supprimés. On peut, d'une part, on n'est pas engagé, on peut s'abonner et se désabonner absolument quand on veut, et c'est le cas avec tous ces services. Et puis ensuite, on se constitue notre panier de services à la carte. Il n'y en a aucun où on va nous dire « Ah bah, si vous voulez avoir HBO, et bah vous devez avoir telle et telle et telle et telle chaîne que vous ne voulez pas, simplement pour qu'on puisse dire « Ah bah oui, mais vous avez 15 chaînes, mon bon monsieur. » Et donc, en plus de ça, le contenu offert par tous ces services est énorme. Pour moi, je vois toujours mon baromètre, c'est le baromètre ciné. C'est-à-dire combien je suis prêt à payer pour deux heures d'entertainment, deux heures de distraction et de bons moments. Un ciné, allez, on va dire, on va être généreux, ça coûte environ 10 €. Et c'est 2 heures. Et il y a plein de gens qui vont au ciné et qui payent 10 € pour 2 heures. Alors, c'est peut-être le plus qu'on soit capable de payer, mais on va dire, si dans le mois, je récupère 10 heures de plaisir d'un service, je pense que 10 €, c'est pas un prix complètement fou pour 10 heures de qualité de service. Et là, on est exactement dans ce cadre. Si Netflix ne vous fournit pas, allez, 5 à 10 heures de contenu par mois, non seulement vous pouvez arrêter, mais en plus, vous n'êtes déjà pas obligé de vous abonner. Donc, le spectre de l'abonnite, pour moi, est complètement biaisé. Et pourtant, je comprends qu'il y a un vrai sentiment de malaise chez les gens quand on leur dit « il va falloir être abonné à 50 trucs différents ». Mais pour moi, c'est juste que ce sentiment est irrationnel. Parce que si on regarde les choses de manière logique, eh ben, ça vaut complètement et on est obligé de rien. Donc, je ne sais pas, mais les événements de nos sociétés de ces quelques dernières années nous ont montré que les gens ne sont pas forcément hyper rationnels dans leurs choix. Mais bon, je voulais le dire parce que cette peur de l'abonnisme, pour moi, n'est pas justifiée, quoi.
Je pense que la problématique est plus sur la capacité à savoir où est-ce que tu retrouves les choses. Parce qu'effectivement, en plus, les prix sont franchement pas très chers. Si tu mets 6 € par-ci, 6 € par-là, enfin, au final, même si tu t'abonnes à tous, tu dois t'en tirer pour moins cher qu'un Canal Plus à l'époque.
C'est ça. Ouais.
Donc, effectivement, je pense que tu as raison là-dessus. C'est pas une question autant financière que ça, mais plus de je cherche un film, waouh, où est-ce que je vais le trouver ? Est-ce que je vais sur Netflix ? Est-ce que je vais... Enfin, évidemment, t'auras, Disney, c'est plus, le contenu est plus lisible, tu sais ce que tu vas y trouver, c'est plus facile, mais entre OCS, Netflix, Amazon Prime, etc., parfois tu te galères à te dire, où est-ce que je le retrouve ? Donc,
bah, y a ça. Et en plus, le fait qu'au bout d'un moment, bah, on n'a plus le temps de tout regarder, donc la limite à l'abonnite, pour moi, c'est encore plus ça, c'est le fait de dire « Mais attends, il y a 4 séries de 10 épisodes que je vais regarder, que je veux regarder ce prochain mois, j'ai juste pas le temps. J'ai un boulot, j'ai des enfants, et en plus, il y a les jeux vidéo avec abonnement à faire derrière. Non, c'est bon. Mais c'est une question de temps, plus, pour moi. Et oui, la difficulté. S'il y a un service qui vous permet... Ah oui, mais d'ailleurs, tu nous parlais de Common Sense tout à l'heure, Just Watch est un service hyper pratique qui vous permet justement de savoir où sont disponibles les différents contenus. Donc vous allez sur justwatch.com et vous tapez, donc ça vous fait par pays, vous tapez le nom de la série ou du film ou ce que c'est que vous voulez voir, et ça vous dit où vous pouvez l'acheter ou le louer numériquement ou même le regarder en streaming. Donc il y a une solution à tout en fait.
Ben voilà, tu as trouvé la solution à mon problème. Magnifique. Je vais pouvoir me rajouter un abonnement supplémentaire quelque part.
Bon, bah écoutez, on va faire une petite pause avant de passer aux news et rumeurs pour parler donc de Google et d'Apple. Mais avant ça, j'aimerais redire un petit mot sur Patreon et patreon.com/rdvtech. Vous savez que le Rendez-vous Tech est une émission qui est disponible pour tout le monde, complètement gratuitement, mais elle demande beaucoup de travail pour être réalisée, et donc, qui dit travail, dit revenu, et la seule source de revenu, en tout cas pour le moment, que nous avons et que j'ai pour cette émission, bah, c'est votre soutien à vous. Donc, si vous pensez que l'émission est sympa, elle vous fait passer un bon moment, elle a une certaine valeur pour vous, tout simplement. Quand vous la voyez arriver dans votre lecteur de podcast, quand vous allez au boulot, quand vous allez à l'université, vous vous dites ah bah cool, je vais pouvoir m'informer, je vais savoir enfin ce qui s'est passé dans le monde de la tech, et en plus je vais bien me marrer pendant une heure. Et ben dites-vous que peut-être il serait intéressant de participer au financement de cette émission. Vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous pouvez choisir $1, $2, $3 par épisode, ce que c'est, selon vos moyens, selon votre envie. Vous choisissez le nombre d'émissions que vous soutenez par mois, et en plus vous avez des récompenses, comme par exemple, si vous voulez ne plus entendre cette petite section de pub pour Patreon, pour le Rendez-vous Tech, et ben vous avez accès au podcast privé des Patriotes, quel que soit le montant que vous donnez, et ça vous permet d'avoir une émission sans cette partie, entre guillemets, publicité. Et en plus de ça, vous avez des éditos, vous allez pouvoir entendre ce qui va peut-être se passer dans l'émission dans les semaines ou mois à venir, d'ailleurs, avec le dernier épisode de l'édito que j'ai publié sur ce flux. Vous avez des contenus bonus et plein de petites choses. Donc, si ça vous plaît, cette émission, et si vous voulez faire une bonne action journalistique pour soutenir le contenu de qualité, et qu'en plus vous voulez des petites récompenses, eh ben, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech, et je remercie du fond du cœur tous ceux qui le font déjà. Pour vous abonner au podcast privé des Patriotes, le lien est sur le site frenchspin.fr, dans la barre de droite, où il y a tous les détails, mais en gros, c'est très simple. Vous allez sur le site Patreon, sur la page patreon.com/rdvtech, et il y a un lien vers le flux RSS, bah, là encore, dans la barre de droite. C'est très facile à trouver. Bon, on continue avec des news Google et Apple. Alors d'abord, du côté Android, Android a abandonné sa nomenclature de dessert, sa nomenclature sucrée, et désormais, Google va utiliser pour nommer les versions d'Android des numéros. Ça ne sera plus Android KitKat, Android Pie, Android je ne sais plus quoi. Ça sera Lollipop. Simplement... Lollipop, exactement. Ça sera simplement Android 10. C'est la prochaine version d'Android. Et ils ont aussi rafraîchi le logo et l'image du petit Android. C'est vraiment marrant parce que quand j'ai vu le logo, je me suis dit « Ah bah c'est, oui, c'est un logo normal, une police de caractère un petit peu classique, c'est élégant, mais voilà, ça ne change pas tellement. » Et puis je suis allé revoir l'ancien et là c'était « Ouch !» Ah oui, vraiment, c'est marrant comme ces trucs de design nous font évoluer le style. Et comme tout à coup, quand on a quelque chose de nouveau, on se rend compte à quel point l'ancien était vieux. Ça m'a vraiment frappé. Mais bon, voilà, ça c'est une chose. Et d'autre part, il y a Apple qui prépare, bah, sans doute dans une quinzaine de jours maintenant, la présentation de ses nouveaux produits, dont l'iPhone. On parlait d'un iPhone Pro pour la présentation, sans doute, qui aura lieu le 10 septembre. Et ça semble se confirmer, selon Mark Gurman, qui est hyper bien informé chez Apple, qui écrit pour Bloomberg. Et il dit donc l'iPhone Pro se concentrerait sur la qualité des appareils photo du téléphone, qui serait comparable à vraiment un appareil photo professionnel. Et il y aurait donc un capteur de plus avec ultra angle ultra large. Et il y a d'autres petites choses intéressantes, comme par exemple le sans fil renversé, c'est-à-dire qu'on peut poser, comme c'est déjà le cas sur certains appareils Android, on peut poser une Apple Watch ou des AirPods sur le téléphone, sur le dos du téléphone pour le charger. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est le Face ID multi-angle, c'est-à-dire que enfin le téléphone posé sur la table, eh ben, il pourrait repérer le visage sans qu'on ait besoin d'être pile en face. Ça serait hyper pratique. Et d'autres petites choses de ce type-là. Ça m'a l'air d'être une bonne évolution, comme le sont tous les appareils de ce type depuis des années déjà. Mais j'étais un petit peu sceptique sur l'idée qu'il puisse faire quelque chose de correct. D'après ces rumeurs, ça pourrait être une upgrade pas mal si vous avez un téléphone, on va dire, qui a 2 ou 3 ans. Et ça serait une upgrade qui fait plaisir et pas juste un petit truc qu'on upgrade pour le principe. Quoi d'autre ? Oui, je voulais parler aussi rapidement d'Apple Arcade qui coûterait environ 5 euros. Je rappelle que c'est un service de jeux vidéo qui vous donnerait accès à une centaine de jeux sur tous les appareils Apple, qu'ils soient iPhone, iPad, Apple TV, etc. Et qui pourrait avoir un avantage qui est que justement, si on a des enfants auxquels on veut donner des jeux de qualité qui sont payants et pas free-to-play, c'est-à-dire qu'ils sont gratuits à télécharger, mais ensuite, ils vous demandent de payer toutes les 10 minutes et ils ont des mécaniques un petit peu frustrantes, et bah, là, ça pourrait être une bonne alternative si vous voulez ce type de jeu pour vos enfants. Voilà pour les news entre Google et Apple. Quelque chose qui t'a marqué là-dedans ?
Écoute, surtout le Apple Arcade, j'ai hâte de le tester, pour être honnête. Effectivement, si on peut avoir des jeux sans publicité et sans achat intégré toutes les 30 secondes, j'avoue que je suis très preneuse. Donc j'attends ça avec impatience.
Ouais, bah, moi aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi », mais... Bon, si c'est pas pour vous, bah c'est pas pour vous, mais ça pourra être pour certaines personnes. Et alors les jeux qui nous ont été présentés dans cette version Early Access d'essai qu'ils ont mis en ligne pour certains bêta-testeurs m'ont pas vraiment convaincu. Ça, c'est un autre problème, mais bon, c'est juste des jeux de test, hein. On pourra voir des choses, on pourra repenser à notre estimation du service sérieusement quand ça sera disponible pour de vrai. Mais bon, sur le principe, moi, je pense qu'il y a des choses à espérer.
Oui, je pense que c'est pas pour du pur gamer, hein.
Oui, c'est possible, ouais. Pas pour du gamer console PC traditionnel,
voilà,
on va dire.
Non.
Et allez regarder le logo d'Android, le nouveau, moi, je le trouve assez élégant.
Et alors, ouais. J'ai surtout appris, tu sais, pourquoi est-ce qu'il a changé de vert à noir ?
Non, mais il est toujours vert, le logo Android.
Non, ils vont le passer en noir. Ils expliquent qu'après, il sera tout le temps en noir, parce qu'en fait, la problématique du vert, c'était pour les personnes qui ne... Les daltoniens ne voyaient pas le logo.
Ah, tu veux dire le texte. Oui, l'Android lui-même est toujours vert, mais le logo, enfin, le nom Android est noir. Oui, tu as raison, oui.
Voilà, je précisais ça parce que je trouvais ça intéressant. Je n'avais pas capté cette...
La question de l'accessibilité est une chose à laquelle il faut penser dès le design et pas à posteriori.
À posteriori, tout à fait.
Il y a des nouvelles intéressantes dans le domaine de la santé et de l'exploitation des données privées avec trois petites news que j'ai réunies ensemble. D'abord, Fitbit a gagné un contrat avec le gouvernement de Singapour pour équiper des millions de citoyens de Singapour pour leur donner en échange d'un abonnement à un service qui coûte 10 dollars par mois, donc c'est juste l'appareil qui lui est gratuit, ce tracker de fitness, de santé, et c'est une initiative du gouvernement lui-même. L'idée étant d'endiguer les problèmes d'obésité, de surpoids, et d'aider les gens à mieux se prendre en main et se prendre en charge avec tout simplement à faire plus d'exercices. Et alors, ce qui est nouveau et ce qui est intéressant, c'est que c'est au niveau carrément gouvernemental. Il y a une autre info qui est un petit peu différente, c'est que Xiaomi, la grande société chinoise, bien sûr, est en train de penser à lancer un service de prêt en Indonésie et de prêt, pardon, de de près en Inde et qui se serviraient des informations qu'ils ont sur vous en scannant toutes les données que vous avez sur votre téléphone pour ajuster le type de prêt et les taux des prêts qu'ils peuvent vous donner. C'est une chose qu'ils font déjà en Indonésie, ils traquent déjà ces informations en Indonésie et ils s'en serviraient pour le service de prêt en Inde. Et quand on dit toutes les données, c'est-à-dire que quand vous commencez à utiliser l'appareil, vous pouvez cocher une petite case pour dire vous acceptez que Xiaomi ait accès aux données de votre téléphone, et c'est vraiment toutes les données, mais tout. Là, pour le coup, c'est pas juste Facebook qui a les données que vous, entre guillemets, leur partagez. C'est vraiment tout ce qui est sur votre téléphone, les messages privés, les photos, etc. Et ils peuvent analyser tout ça et ensuite donc déterminer un profil sur vous et décider si vous allez pouvoir être qualifié pour tel ou tel type de prêt. Évidemment, ça fait un petit peu peur. Je pense qu'en Europe, ça serait pas acceptable, mais c'est très intéressant de voir comment ça se développe. Et dernier sujet sur ces questions de données médicales et données de santé, il semblerait que depuis 2013, des groupes de hackers liés au gouvernement chinois aient ciblé les services de santé de différents pays européens, américains mais pas que, pour aspirer toutes les données de santé, enfin toutes, autant de données de santé qu'ils pouvaient sur les habitants, les citoyens de ces différents pays. Et ce n'est pas des trucs qu'ils font pour les exploiter ensuite. En tout cas, on n'a pas vu d'exploitation directe, mais c'est simplement pour se constituer une grande base de données avec des données de santé de tous les habitants ou de tous ceux qu'ils réussissent à atteindre ou à hacker au niveau des hôpitaux et des services de santé de tous ces pays-là. Et donc, c'est du hacking, hein, clairement. Et c'est pas, le gouvernement chinois ne dit pas « oui, oui, c'est nous ». Mais les chercheurs en sécurité ont établi de manière relativement crédible que c'est lié au gouvernement chinois, donc que ça serait une initiative d'une nation, d'un État, et ça serait la Chine, évidemment. Donc, ça fait beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a un des sujets qui te plaît plus particulièrement, ou plusieurs ?
Tous font froid dans le dos, en fait.
C'est vrai, même celui de... Pourtant, Fitbit et Singapour, c'est quelque chose de positif, ça va aider les gens à être plus en forme, non ?
Écoute, non, mais on est toujours sur la problématique de collecte de données. Qu'est-ce qu'on en fait quand on est dans un pays démocratique, tout va bien. Quand le jour où on ne l'est plus, tout va mal. Et le problème, c'est que je venais de finir de lire un roman d'anticipation sur la transparence des données, qui s'appelle Transparence, d'ailleurs, un livre de Duguin. Je recommande, sauf si vous avez peur, ne le lisez pas. Mais ça... Et tout commence comme ça, en fait. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Mais y a une phrase, en tout cas, qui est très... qui résume bien et qui dit qu'en fait le web se nourrit de liberté en échange de sécurité. Mmh. Et effectivement, c'est un peu ce principe-là. C'est, écoute, on donne nos données. Si c'est bien utilisé et que ça nous rend service, tout va bien. Si après, vous avez vu aussi sur Netflix ce dernier documentaire qui s'appelle The Great Hack, donc sur Cambridge Analytica, c'est intéressant aussi de savoir... faut juste savoir ce qu'on donne comme données et encore une fois, ce qu'on en échange et comment ça peut être hacké par derrière.
Il y a la question du hacking. Pardon, je t'ai interrompu.
Vas-y. Non, vas-y.
La question du hacking, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est vrai que l'une des grandes peurs quand ces idées d'utiliser des trackers de données, on sait qu'aux États-Unis, il y a des sociétés, par exemple, ou des sociétés d'assurance qui donnent des trackers des Fitbits, c'est des trackers d'exercice, de fitness, à leurs employés. Et puis, si c'est une société d'assurance, alors bien sûr, les choses sont beaucoup moins cadrées aux États-Unis qu'en France, mais on peut tout à fait imaginer des sociétés aux États-Unis qui refusent de couvrir une personne qui n'aurait pas fait assez d'exercices pendant l'année précédente ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est un petit peu des scénarios catastrophes, mais je crois que depuis Cambridge Analytica, je crois qu'il n'y a plus de scénario catastrophe qui est invraisemblable. Donc, il faut faire attention à tout. Mais en même temps, je ne vais pas partir dans ces idées de est-ce qu'il faut indexer les types de sécurité sociale sur les efforts que font les gens. En gros, c'est l'idée qu'il ne faut pas payer pour les gens qui ne font pas d'exercice. Évidemment, il ne faut pas que ça aille aussi loin. On est d'accord que la solidarité, ce n'est pas du tout ce type de philosophie. Mais si ça reste, c'est ça le problème, c'est comme tu disais, comment c'est utilisé
et
après. C'est, voilà, si ça reste du côté où on vous encourage et on vous aide et on vous donne les outils pour que ça soit plus facile pour vous de rester en forme, et donc ça bénéficie à tout le monde, à la société au sens large, et aux assureurs qui peuvent réduire leurs coûts, et donc soit leurs bénéfices, soit leur, les prix des assurances, on sait dans quel sens ça va, mais bon, encore une fois, en France, c'est très régulé ces choses-là, mais si ça bénéficie, je veux dire, il y a ce que my point, c'est que il y a quand même un moyen d'imaginer une utilisation positive de ces outils, et peut-être que le fait que ça soit des initiatives qui rentrent dans le cadre d'une administration, ça pourrait être positif, une bonne chose complètement, je sais pas, mais je ne peux pas fermer complètement la porte à l'idée que on pourrait en faire quelque chose de positif de ces outils-là et de l'idée de les diffuser plus largement au grand public, non ? Je ne sais pas.
Mais tout à fait, le nucléaire, quand il a été fait, avait une vocation positive. Hein.
Bah écoute, ça nous a quand même, c'est un exemple.
Et ça nous aide
intéressant.
Encore, mais non, ça mais ça dépend encore, de ton usage.
Si, oui, c'est ça. Oui.
Si ça, tu peux faire l'électricité ouais. ou tu peux faire une bombe. C'est oui. toi qui choisis. Ça dépend dans quelle main ça tombe. C'est, on en est toujours là. Hein. C'est ouais. le problème, là, dans les, notamment, j'ai vu Xiaomi qui expliquait que le profil de ton crédit de profil était lié aussi à ton réseau social, à tes relations sociales, ta loyauté à la marque, etc. Donc, c'est, voilà, qui font ces critères, quels sont ces critères, comment est-ce que c'est utilisé derrière. Je ne veux pas faire la catastrophiste non plus, mais je dis juste que oui, tu as raison, ça rend des services. Oui, en échange de liberté, on a de la sécurité et on a des services. Il faut juste savoir où sont les limites, il faut juste savoir ce qu'on donne à qui et comment ça peut être réexploité derrière.
Bah écoute, c'est une conclusion sur ce sujet qui me paraît assez positive et qui me rassure sur le fait que nous, on semble vivre dans une région du monde qui est relativement cohérente sur tous ces sujets, et en particulier au niveau de l'Union européenne, puisqu'on voit que l'Union européenne est en train de s'atteler à des régulations, et c'est de ça dont on parle, hein, que ce soit pour les données privées, pour les données de fitness, etc. Je pense que c'est des outils dont on peut envisager l'utilisation, mais il faut que ça soit bien encadré. Et souvent, on a l'image des États-Unis où ils ont une peur bleue de l'encadrement, encore que les choses sont en train de changer avec de nombreuses initiatives, comme on en parle souvent dans l'émission, qui visent à, en tout cas, enquêter sur les géants de la tech. Mais dans ce dont je voulais parler, c'est l'Union européenne qui est en train de plancher sur des limites très strictes sur l'utilisation de la reconnaissance faciale dans le cadre des sociétés privées et des administrations public. Et c'est hyper intéressant parce que, comme vous le savez si vous écoutez l'émission, ça fait des mois qu'on parle des problèmes que peuvent poser les principes de reconnaissance faciale, d'une part parce qu'ils ont des biais très clairs, raciaux, au niveau du genre ça va à peu près, mais des biais raciaux, c'est-à-dire que certaines ethnies, certaines couleurs de peau, je dis racial, c'est le terme, il y a des gens qui sont énervés la dernière fois que j'ai dit racial en français, ça n'a pas la même portée en français et en anglais. J'utilise avec le terme, comment dire, l'utilisation anglaise, c'est-à-dire ethnique. Il y a des ethnies qui sont moins bien reconnues et pour lesquelles les pourcentages de reconnaissance sont beaucoup plus faibles, et donc ça mène à évidemment énormément d'erreurs. Et c'est même le cas, c'est-à-dire que sur aucune ethnie, la reconnaissance n'est parfaite. Bref, c'est un outil qui peut peut-être être utilisé dans certains cas. Peut-être que à terme, ça sera encore amélioré et ça sera plus utilisable. Mais ce qui me rassure, c'est que l'Union européenne, la Commission européenne, est en train de s'atteler à ce problème que dénoncent d'ailleurs des géants de la tech depuis des mois et qui disent il faut des régulations, il faut des lois et un cadre sur ces sujets. Et donc, la Commission européenne est en train de s'y atteler, ce qui me paraît être, bah encore une fois, c'est quelque chose de cohérent, des outils ok, mais il faut bien les utiliser. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'Europe, ils sont... Alors, ce n'est pas encore mis en place, mais la prochaine présidente de la commission, Ursula von der Leyen, aurait comme projet de créer un fonds d'investissement de 100 milliards d'euros pour créer en Europe des géants de la tech. Et là, c'est vraiment les questions... comment dire ? On passe aux choses sérieuses. 100 milliards, ça fait quand même quelque chose. Et oui, bien sûr, il y a toujours cette idée qu'on ne peut pas forcer l'émergence de grandes sociétés. C'est très difficile. Mais avoir un fonds d'investissement au niveau européen qui va encourager... C'est-à-dire que ça ne va pas forcément marcher, mais à un moment... L'autonomie numérique est tellement importante par rapport aux géants que sont la Chine et les États-Unis qu'il faut qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut, à mon sens en tout cas, pour créer justement ces alternatives européennes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut créer un Google européen, qu'on va avoir un Uber français, un Facebook, j'allais dire anglais, mais ce n'est plus le cas maintenant, un Facebook finlandais par exemple, ou un Netflix espagnol, mais... Peut-être créer des nouvelles sociétés qui feront les choses dans le futur pour nous donner plus de poids, ou même peut-être des alternatives de ce type-là. Je crois qu'il y a c'est une idée positive parce que c'est un enjeu extrêmement important. Et enfin, sur ces sujets politiques et européens, je voulais mentionner le fait que la France et les États-Unis ont atteint un consensus et un accord sur la question très controversée de la taxe sur les grandes sociétés Internet dont Jérôme et Marion parlaient il y a 2 semaines. Et c'était Guillaume, le troisième. On a tendance à s'en moquer, là encore, pour différentes raisons. Je ne vais pas revenir sur ces sujets. Pour moi, cette taxe est importante parce qu'elle remet le cadre législatif et le cadre fiscal dans le contexte de ce qu'est le monde et ce que sont le monde et l'économie aujourd'hui. Et on a tous entendu les déclarations de Trump qui disait « Ah, vous allez voir en France, si vous faites ça, vous allez voir ce qui va se passer ». Eh bien, clairement, les choses ont été habilement discutées pendant ce sommet du G7, dont d'ailleurs... on n'attendait pas grand-chose et qui aurait été plutôt positif sur divers aspects, même s'il y a encore beaucoup de travail, avec cette idée que les taxes qui seront levées cette année et en début d'année prochaine en France seront déductibles de la prochaine taxe établie par l'OCDE, donc entre toutes les nations de l'OCDE. Et ce que ça veut dire pour moi, c'est que avec le forcing de la France qui a été largement critiqué, on est en train d'arriver et de faire le forcing pour arriver à un accord commercial généralisé sur la manière dont on taxe ces sociétés. On en a beaucoup parlé dans l'émission par le passé. On disait qu'il y avait des problèmes, évidemment, de, entre guillemets, optimisation fiscale, qu'il était difficile de combattre parce que l'optimisation fiscale, c'est des utilisations peut-être peu scrupuleuses et peu morales de règles et de lois existantes, mais les règles et les lois restent existantes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce que nous, on disait toujours dans cette émission, c'est changer les lois. C'est pas contorsionner les sociétés pour qu'elles n'utilisent pas les lois telles qu'elles sont. Et bien là, c'est ce qu'on est en train de faire, et malgré, alors on verra, peut-être que ça va pas bien se passer, mais malgré les critiques et les moqueries qu'ont reçu la France pour cette taxe de 3%, et malgré les petits problèmes comme Amazon qui augmente les tarifs et les commissions sur les vendeurs français, oui effectivement, mais c'est un exemple parmi d'autres, et ben ça veut dire que ça pousse l'opinion et la manière dont on pense à ce problème au niveau international. Et visiblement, puisque l'OCDE s'est engagé à trouver une solution en 2020, ça fait son petit bonhomme de chemin. Donc peut-être que ça ne fonctionnera pas d'ici 2020, mais en tout cas, c'est en réflexion et c'est en train d'avancer. Donc ça fait beaucoup de choses au niveau européen, entre la législation sur reconnaissance faciale, les 100 milliards de fonds et... la taxe française qui va devenir une taxe OCDE, ça fait beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît là-dedans ?
Écoute, je trouve que déjà on est en avance sur ces sujets-là, sur la législation et sur la taxe, donc ça c'est super. Sur les 100 milliards d'euros, je, trouve ça très positif aussi. J'ai tout de même une crainte, c'est qu'ils essayent de redisperser. 100 milliards, ça fait beaucoup d'argent, mais on a cette capacité à découper ça en tout petits montants entre tous les différents pays. Et j'espère que ça ne sera pas le cas, qu'il y aura vraiment une commission au niveau européenne qui pourra donner des montants importants, parce qu'elle est là l'histoire, hein, c'est d'être capable de mettre beaucoup d'argent sur la table pour quelques acteurs et prendre un risque et se dire je vais diviser les 100 milliards en 10 et sur les 10 il y en a un qui ressortira et ça sera notre gros et il y aura 90 milliards qui auront servi à rien peut-être mais c'est le risque qu'il faut prendre. Donc est-ce qu'on a cette capacité de prise de risque? J'espère.
Bah, c'est exactement ce que font les venture capitalistes aux États-Unis et les angel investors. Et c'est ce que nous dit Jeff quand il vient dans l'émission. Lui, il investit sur de très nombreuses sociétés et sur 10 dans lesquelles il investit, bah, il y en a une qui marche et ça rembourse, entre guillemets, l'investissement pour toutes. Alors effectivement, 100 milliards divisé par 10, ça fait peut-être un petit peu un découpage grossier. Mais oui, il y aura sûrement des seeds au début qui seront des petites sommes. Et puis des Series A, Series B, etc. dans lesquels mais l'idée effectivement est d'aider. Je crois qu'on peut aussi critiquer la chose en disant ah oui, mais si c'est le gouvernement qui fait, ça va être artificiel et ça va pas. Oui, on peut toujours tout critiquer. C'est ce que je dis toujours. Enfin, ce que je dis depuis quelques années dans l'émission, c'est le gros problème qu'on a si on écoute Internet, c'est que on se met à ne rien faire parce qu'aucune solution est parfaite. Aucune solution n'est parfaite et donc on a toujours des problèmes réels qui vont ressortir et qu'on va entendre et qui sont des vrais soucis dans une démarche ou dans une nouvelle loi ou dans une nouvelle initiative. Mais comme il y a toujours, comme rien n'est parfait et qu'il y a toujours des problèmes, si on écoute si à chaque fois qu'on entend une critique légitime, on arrête tout, eh ben on se met à plus rien faire. Et évidemment, il y a plein d'étapes à dépasser avec cette histoire de 100 milliards, comme avec toutes ces initiatives, pour que ça soit bien fait. Et peut-être que ça ne sera pas bien fait. Je crois qu'il y a 10 ans, par exemple, j'aurais dit « Ah, mais non, mais enfin, qu'est-ce que vous racontez, 100 milliards ? Il faut que le secteur privé gère ça comme il faut et que ça soit bien fait et que ça se développe de manière organique parce qu'on ne peut pas le forcer. » Mais là, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation. Et peut-être qu'il faut essayer de forcer, justement. Donc, parce que les enjeux sont tellement importants. Donc, bon, bref.
Et parfois, c'est aussi une combinaison des deux. Hein. Ça veut dire que ça va pousser aussi le secteur privé à aller sur des capital risques. Si finalement, ils ne sont pas tout seuls. Nous, c'est ce qu'on a vu. Hein. En France, capital risque, c'est très compliqué. Il y en a très, très peu. En revanche, ils sont capables d'y aller quand ils sont suivis. Alors, en France, on a la chance d'avoir la BPI aussi. Finalement, le capital risque prend du risque quand la BPI suit, donc quand le service public suit. Donc là, ça sera peut-être la même chose. Et c'est justement c'est très positif.
Bon, espérons que le retard de l'Europe sur la tech n'est pas une fatalité. Moi, je veux pas accepter la fatalité. Je me dis, il y a toujours moyen de faire quelque chose et il est jamais trop tard. Donc aujourd'hui, les géants sont établis. Peut-être on arrive maintenant au moment où il est temps de les disrupter. Peut-être pas en les singeant, mais en faisant d'autres choses et espérons qu'on pourra.
En étant plus éthique et plus malin sur la législation, justement. Et peut-être que nous, on va apprendre des erreurs qu'ils ont pu faire et arriver avec quelque chose qui soit, qui soit justement bien en termes d'usage, d'éthique, de tout ce qu'il faut.
Alors, ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas, ça a été essayé plein de fois, mais on ne peut pas faire les mêmes, mais plus éthiques. Il faut faire des services qui soient plus faciles à utiliser, plus agréables et plus... carrément, complètement autre chose. Il faut de la disruption. Et ça, bien sûr, il n'y a pas de formule pour ça. Donc, c'est ça qui est vraiment compliqué, quoi. C'est bien beau de dire, mais faites des géants d'Internet. Mais après, enfin, des idées genre, moi, je suis le Uber des animaux de compagnie. Oui, il y en a plein, des Uber de plein de choses. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'être Uber dans un monde de taxi. Pas d'être un autre Uber dans un monde d'Uber. Et ça, c'est pas facile. Bon, on suivra ça avec un regard attentif. Dernier sujet que je voulais évoquer. Est-ce que tu sais ce qu'est le swatting, Gaëlle ?
Eh bien oui, ça fait un moment qu'on en parle d'ailleurs du swatting, mais j'ai le sentiment que ça... Je pensais que c'était terminé, et en fait, j'ai le sentiment que ces derniers mois, ça s'est amplifié, le swatting.
Écoute, pour ceux qui ne savent pas, le swatting, c'est... alors, vous savez tous, bien sûr, que un des sites les plus populaires dans le monde du jeu vidéo, c'est Twitch.tv. C'est un site où on fait du streaming de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de jouer et d'autres personnes, des joueurs, qui les regardent jouer de la même manière qu'on peut regarder un match de tennis, un match de foot. Eh bien, ces gens qui streament sont des gens qui sont talentueux dans le jeu vidéo et dans le fait de vous faire passer de bons moments aussi, à regarder ce qu'ils font. Et il y a une pratique assez détestable, même pas assez, mais complètement détestable, qui s'est développée ces dernières années, qui est d'appeler les autorités de police et de leur dire « j'habite à tel endroit » en donnant l'adresse de la personne qui est en train de faire du streaming, si elle a été révélée par différents moyens. Et il y a une personne armée qui est chez moi et qui est en train de nous menacer, ou un truc du genre. Alors évidemment, panique, urgence, les services de police envoient des équipes de SWAT, d'où le terme, donc des équipes d'intervention spécialisées, et qui vont rentrer dans le bâtiment, et c'est déjà arrivé par le passé, qui ont surpris les gens qui étaient à l'intérieur, qui n'avaient rien demandé, évidemment, il n'y avait pas d'attaquants, et qui, par le passé, c'est arrivé, ont tué des gens qui étaient dans la maison parce qu'ils sont en état d'alerte maximum, et le moindre problème peut provoquer ce type de drame. Et c'est un problème, c'est pas que c'est arrivé une fois, c'est arrivé plusieurs fois par an depuis plusieurs années. Récemment, il y a deux villes, je crois que c'est Wichita et Seattle, où les services de police ont créé un registre des gens qui seraient potentiellement victimes de swatting, donc de ce type de problème, pour justement que le jour où il y a un appel d'urgence à cette adresse, eh ben, les équipes d'intervention, elles y vont, bien sûr, mais ils sont au courant que c'est peut-être une blague. Peut-être pas le cas. Et donc, ils y vont avec beaucoup plus de prudence. Et ce qui m'a vraiment frappé dans cette initiative de ces services de police, c'est que dans le cas de Seattle, en tout cas, c'est l'initiative d'un sergent qui s'appelle Sean Whitcomb, qui a reçu un appel d'un streamer, justement, qui lui disait « Écoutez, j'ai peur que ça se produise un jour, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Et le streamer se disait « Bon, je vais demander, mais ça va sans doute rien donner. » Mais il se trouve que le fameux sergent est un gamer, et un gamer... qui est hyper assidu, et du coup il connaît le problème, il connaît, bien sûr, à Seattle il y a Microsoft, Amazon et plein de gens qui streament, c'est beaucoup de technophiles, et donc il a pris la chose au sérieux et il l'a lancé il y a 3 mois, et maintenant il a un registre et il serait possible que ça s'étende à d'autres services de police dans le pays. Et donc on parlait la semaine dernière, je ne sais plus de quoi exactement, peut-être d'ailleurs de swatting avec le champion du monde de Fortnite, et c'est vraiment pour moi une question de génération, du coup. Enfin, c'est un exemple du fait que c'est une question de génération. Si le sergent en question n'avait pas été d'une génération qui a grandi avec ces choses-là, peut-être, ou en tout cas n'était pas au courant, ou s'il n'écoute pas le rendez-vous tech, c'est un autre moyen d'être bien, de vivre avec son temps, il n'aurait peut-être pas prêté attention à ce genre de choses. Mais là, il a trouvé une solution simple qui, a priori, devrait fonctionner et qui a été relativement simple à mettre en place. Et il y a vraiment cette idée de changement de génération qui est important, quoi. Donc ça m'a frappé.
Non, et effectivement, ça encore une fois, ça aussi, ça va dans le bon sens. Du coup, ça va peut-être s'arrêter. Par contre, on n'a jamais entendu, je sais pas si toi tu as entendu, savoir ce qui arrivait, si on arrivait à retrouver les gens qui font la blague et quelles étaient leurs
punition, oui. Bah écoute, il y a, si je ne m'abuse, au moins une personne qui a été retrouvée, effectivement, et elle a été condamnée à de la prison ferme. Alors, je ne sais pas combien de temps, mais c'était plusieurs années, et évidemment, c'était quelque chose de parfaitement mérité. Ce type de pratiques c'est complètement criminel, quoi. Ce qui est vicieux, c'est que on est tellement distant par rapport à ces choses-là qu'on a l'impression de regarder la télé et il y a des jeunes qui ne se rendent pas compte l'immense majorité des gens se rendent compte, et je ne pense pas qu'on puisse les dédouaner de ce genre de choses en se disant « ils ne se rendent pas compte », c'est pas ce que je veux dire, mais il y a une certaine distance qui s'installe, mais peut-être que c'est aussi quelque chose, bah, une question de génération, et qu'on doit apprendre à gérer et à apprivoiser ces choses-là. Et oui, les gens qui ont été retrouvés, ils n'ont pas du tout tous été retrouvés. Et dans la plupart des cas, les choses se passent entre guillemets bien. Il n'y a pas d'accident avec des fatalités et des morts. Mais la plupart des gens n'ont pas été retrouvés. Ceux qui ont été retrouvés, d'après ce que je sais, ont été condamnés à de la prison ferme, oui. Donc bon, voilà pour nos sujets tech. On arrive à la fin de cet épisode. Ça a fait beaucoup de choses un petit peu lourdes à traiter, mais j'espère qu'on vous a apporté un éclairage intéressant sur tous ces sujets. Merci d'avoir été avec nous, Gaël. Avant de se quitter, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où on peut te retrouver sur Internet ?
Eh bien écoute, merci à toi, et on peut me retrouver donc sur Twitter avec coud_fr, donc coud, COOD_fr, puis après sur tous les réseaux sociaux, une fois que vous avez le mot coud, vous nous retrouvez très facilement.
Et coud, c'est cool et good en même temps.
Exactement, parce que c'est bien pour les enfants et en même temps ils s'amusent, voilà.
Super, merci beaucoup à toi d'avoir été présente. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez voir une photo incroyable de la brume qui se lève sur... Le bras de mer à côté de chez moi de ce matin, vous pouvez aller voir sur Instagram. C'est une photo que j'ai postée tout à l'heure. Elle était magnifique. On est mardi au moment où je vous dis ça, donc voilà. Et puis, vous pouvez bien sûr aller sur frenchspin.fr pour commenter sur cet épisode. Vous pouvez y laisser des commentaires sur tous les différents sujets qu'on a abordés. Si on a dit des choses intéressantes ou incomplètes peut-être, que vous voulez compléter, ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, on est toujours preneur de vos avis. Et si vous voulez contribuer à l'émission, bien sûr, c'est sur patreon.com/rdvtech. Vous pouvez choisir le montant, la durée, tout ce que vous voulez. C'est la liberté totale. Et vous faites en sorte que l'émission puisse exister telle qu'elle est. Donc, merci à vous tous. C'est sur patreon.com/rdvtech. Et le lien est dans les notes de l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.